Lorsqu'apparut entouré d'archers la charrette qui amenait les frères Daunet, un grand tumulte monta dans la place et s'amplifia à mesure qu'on distinguait mieux les condamnés. Ni Gauthier ni Philippe ne bougeaient. Des cordes les liaient au montant de la charrette, sans lesquelles ils eussent été incapables de tenir debout. Les aumônières brillaient à leur ceinture, sur leurs choses déchirées. Un prêtre, venu recueillir leurs confessions bredouillées et leurs dernières volontés, les accompagnait. Épuisés, pantelants, hébétés, ils semblaient n'avoir plus vraiment conscience de ce qui se passait. Les aides-bourreaux les hissèrent sur la plateforme et les dévêtirent. Allés voir nus entre les mains des bourreaux, la foule alors fut prise de transe et poussa des hurlements. Quolibets et remarques obscènes s'échangèrent à travers la place. Les deux gentilshommes furent couchés et liés sur les roues, la face tournée vers le ciel, puis on attendit. De longues minutes passèrent ainsi. L'un des bourreaux s'était assis sur le billot. L'autre éprouvait du pouce le tranchant de la hache. La foule s'impatientait, posait des questions, commençait à devenir houleuse. Soudain, l'on comprit la raison de cette attente. Trois chariots, dont on avait à demi relevé les bâches noires, se présentaient à l'entrée de la grand-rue. Par un suprême raffinement dans le châtiment, Nogaret, en accord avec le roi, avait ordonné que les princesses assistassent au supplice. L'intérêt des spectateurs se trouva partagé entre les deux condamnés nus sous les nuages et les princesses royales prisonnières et rasées. Il s'ensuivit quelques mouvements de masse que les archers durent contenir. En apercevant l'échafaud, Blanche s'était évanouie. Jeanne, agrippée aux ridelles de son chariot, criait aux gens « Dites à mon époux, dites à monseigneur Philippe que je suis innocente !» Jusque-là, elle avait tenu ferme, mais sa résistance venait de céder. Les badauds se la montraient en riant, telle une bête de ménagerie dans sa cage. Des mégères l'insultaient. Seule Marguerite de Bourgogne avait le courage de regarder, et ceux qui l'observaient d'assez près purent se demander si elle n'éprouvait pas un atroce, un affreux plaisir à voir exposé aux yeux de tous l'homme qui allait mourir de l'avoir possédé. Lorsque les bourreaux levèrent leur masse pour rompre les os des condamnés, elle hurla « Philippe !» d'un ton qui n'était point celui de la douleur. On entendit des craquements, et le ciel pour les frères Daunet s'éteignit. D'abord leurs jambes et leurs cuisses furent brisées. Ensuite les bourreaux firent pivoter les roues d'un demi-tour, et les masses frappèrent les avant-bras et les bras des condamnés. Les rayons et les moyeux répercutaient les coups, et les bois craquaient autant que les os. Puis les bourreaux, appliquant les peines dans l'ordre prescrit, se munirent d'instruments de fer à plusieurs crocs et arrachèrent par grands lambeaux la peau des deux corps. Le sang giclait, ruisselait sur la plateforme. L'un des bourreaux dut s'essuyer les yeux. Cette sorte de supplice prouvait assez que la couleur rouge, réglementaire pour le vêtement des exécuteurs, répondait à une nécessité. Roué, écorché vif, châtré, décapité. S'il restait encore quelque vie dans les deux frères Daunet, tout sentiment, toute conscience s'était retiré d'eux. Une vague d'hystérie agita l'assistance lorsque les bourreaux, à l'aide de longs couteaux de boucher que leur tendirent leurs aides, mutilèrent les amants coupables. Les gens se bousculaient pour mieux voir. Des femmes criaient à leur mari « T'en mériterais bien autant, hein, gros paillard ! Tu vois ce qui t'arrivera si tu me fais la pareille !» Les bourreaux avaient rarement l'occasion de donner si complète démonstration de leur talent, et devant un si chaleureux public. Ils échangèrent un coup d'œil et ensemble, d'un mouvement bien réglé de jongleur, ils lancèrent en l'air les objets de la faute. Un plaisantin cria, montrant les princesses du doigt, « C'est à elles qu'il faut les donner !» Et la foule éclata de rire. Les suppliciés furent descendus des roues et traînés vers le billot. La lueur de la hache brilla par deux fois, puis les aides portèrent jusqu'aux potences ce qui restait de Gauthier et de Philippe Daunet, de ces deux beaux écuyers qui, l'autre avant-veille, caracolaient sur la route de Clermont, deux corps rompus, sanguinolents, sans tête et sans sexe, qui furent hissés et accrochés par les aisselles aux fourches du gibet. Aussitôt après, sur un ordre d'Alain de Pareille, les trois chariots noirs, encadrés par les cavaliers en chapeaux de fer, se remirent en marche, et les sergents de la prévôté commencèrent à faire évacuer la place. La foule s'écoula lentement, chacun voulant passer au plus près de l'échafaud afin d'y jeter un dernier regard. Puis les gens, par petits groupes, et se livrant leurs commentaires, s'en retournèrent, qui vers sa forge ou son étal, qui vers son échoppe, qui vers son jardin, pour y reprendre avec tranquillité le travail quotidien. Car en ces siècles où la moitié des femmes mouraient en couche, et les deux tiers des enfants au berceau, où les épidémies ravageaient l'âge adulte, où l'enseignement de l'Église préparait surtout à quitter la vie, et où les œuvres d'art, crucifixion, martyr, mise au tombeau, jugement dernier offraient constamment la représentation du trépas, l'idée de la mort était familière aux esprits. Et seule une manière exceptionnelle de mourir pouvait un moment les émouvoir. Devant une poignée de badauds obstinés, et tandis que les aides lavaient les outils du supplice, les deux exécuteurs se partageaient les dépouilles de leurs victimes. En effet, ils avaient droit par coutume à tout ce qu'ils trouvaient sur les condamnés, de la ceinture aux pieds. Cela faisait partie des profits de leur charge. Ainsi, les aumônières envoyées par la reine d'Angleterre allaient finir, aubaine rare, aux mains des bourreaux de Pontoise. Une belle créature brune, vêtue en fille de noblesse, s'approcha de ces derniers et, à mi-voix, d'un ton un peu traînant, leur demanda la langue de l'un des suppliciés.
« On dit que c'est bon pour les maux de femme, » expliqua-t-elle. « La langue de n'importe lequel des deux, cela m'est égal. »
Les bourreaux la regardèrent d'un air soupçonneux. N'y avait-il pas quelque tour de sorcellerie là-dessous? Car il était bien connu que la langue d'un pendu, surtout un pendu du jour de vendredi, servait à évoquer le diable. Mais une langue de décapité pouvait-elle faire même usage? Comme Béatrice d'Hirson avait une belle pièce d'or brillante dans le creux de la main, ils acceptèrent. Et, feignant de mieux assujettir l'une des têtes fichées sur le gibet, y prélevèrent ce qui leur était demandé.
« C'est seulement la langue que vous voulez, » dit Goguenard, le plus grand des deux bourreaux, « parce que, pour marcher égal, on pourrait aussi bien vous fournir le reste.
» Rien décidément n'était ordinaire dans cette exécution. Sur la route de Poissy, trois chariots noirs s'en allaient lentement. Dans le dernier, une femme au crâne rasé, en chaque village traversé, s'obstinait à crier aux paysans surgis sur leurs portes.
« Dites à monseigneur Philippe que je suis innocente. Dites-lui que je ne l'ai pas honnie. »